bout du monde, Clémence de Navy.
Bonjour, bienvenue sur RFI, bienvenue, c'est le goût du monde. Le poulet à la montre, c'est une recette qui m'a été transmise par ma maman. Pour moi, c'est la gourmandise. Quand on voit la couleur de la sauce qui brille, ce côté où tu manges cette sauce et ça glisse dans la gorge avec la semoule ou la chikwang ou avec le riz. Mais moi, j'aime beaucoup la chikwang ou la semoule. C'est gourmand. J'aime le faire avec du poulet fumé. Je trouve que c'est plus fort en goût, plus agréable et ça se marie très bien avec la cacahuète.
Les premières secondes du documentaire Roots and Plates, une histoire de la cuisine africaine en Belgique. Les voix de Naouin Tsungu, est-ce que vous entendez cette sauce? Le petit bouillon de la sauce, là, bien épais. Une histoire de Racine, de la cuisine noire d'Afrique subsaharienne en Belgique, de sa construction, de son affirmation naissante et grandissante. Roots and Plates, quel beau titre! Quel documentaire!
Merci.
Bonjour, Roger Douchimé.
Bonjour.
Bienvenue. C'est vous qui le signez ce documentaire avec Will Anderson et Mila Jones.
Exactement.
Merci beaucoup d'être à notre table. Merci de votre confiance aussi. Et puis merci à la personne qui se trouve face à vous aujourd'hui à table, Sandrine Vasselin-Kabonga, découvreuse d'épices, fondatrice de Missao, maison de poivre, d'épices fines du Kivu et d'Afrique, l'une des voix de ce documentaire.
Bonjour, bonjour Clémence, bonjour Roger.
Soyez tous les bienvenus. Oh my,
merci.
Oh my, quel chemin parcouru. Au grand jour et sur grand écran, la voici cette cuisine d'Afrique, au pluriel et en Belgique. Combien d'enfants, de jeunes hommes et de jeunes femmes vont enfin se reconnaître? On est d'accord.
Quelle introduction déjà. Je pense que vous avez tout dit. Moi, je pense qu'il y avait un désir de se dire, tiens, on peut se raconter à travers la cuisine. Ce qui n'était pas garanti, c'est de se raconter au cinéma en parlant de cuisine. Et avec l'avant-première qu'on a faite le 17 février, ben, en fait, on s'est raconté ensemble cette génération qui a grandi en Belgique, qui se sent belge un peu, beaucoup, passionnellement. En tout cas, on a raconté notre histoire à nous. Et qui a fait écho au-delà de nous-mêmes, je pense, parce qu'on est aujourd'hui à RFI, et ça, c'est incroyable. Et je pense que aussi cette histoire qui est peut-être singulière sur le territoire belge est peut-être aussi une histoire universelle.
Des Afriques qui se mitonnent, on est d'accord, depuis des décennies dans l'ombre. Voici maintenant qu'on les courtise, ces cuisines. Vous connaissez le dicton, les yeux regardent, la bouche goûte et elle n'oublie pas. Ici en France, les cuisines d'Afrique décollent et en Belgique. Cette idée, c'est devenu comme une urgence pour vous de réaliser un tel documentaire, de vous interroger et d'interroger ces cuisines?
Moi, je dirais peut-être pas une urgence parce que entre la France et la Belgique, il y a une réalité vraiment très différente. C'est deux pays aux tailles différentes, aux histoires différentes, aux histoires coloniales différentes. Et donc, en fait, la place des cuisines noires en Belgique, elle est, pour moi, encore extrêmement marginale. Mais cette marginalité, dans les communautés africaines, ce n'est pas du tout le cas. Elle est majoritaire dans ce que nous mangeons dans notre quotidien, donc dans nos intimes. Et c'était, en fait, peut-être un film qui se veut juste de dire, voilà, voici ce que nous sommes. Et voici ce que nous mangeons, que ce soit populaire ou pas, que ce soit majoritaire ou pas. Après, vu que cette cuisine, moi, j'aime à penser qu'elle est belle, bonne et universelle. Mais en fait, si on la mène sur le grand écran, à la sublimer, à la montrer aux autres, mais peut-être qu'en fait, elle deviendra de moins en moins marginale. Et en fait, ça permettra aussi, en fait, aux personnes noires et aux personnes concernées d'être de moins en moins marginaux. Et après, on verra si un jour elle deviendra un peu plus populaire. Et ça, ce sera le travail des gens comme Sandrine et comme d'autres acteurs qui sont dans le film pour la populariser. Mais là, c'était juste montrer ce qui existe déjà et qui mérite d'être vu, en fait.
Je voudrais faire un point, Roger et Sandrine, sur ces diasporas dont on parle, sur ces cuisines africaines. Comment est-ce qu'on perçoit ces cuisines? Quel est le regard qui est porté?
Alors, si vous parlez du regard
timide,
hors de nos communautés, je pense que le mot que Roger a utilisé de marginalisation, mais c'est quelque chose qui représente en fait l'état des lieux aujourd'hui pour moult raisons. Et moi, mon travail de ce que je fais au travers des épices, c'est de sortir de cette marginalisation, mais en même temps de clamer, de réclamer notre identité. Et je pense que c'est via un documentaire comme ça qu'on peut vraiment ouvrir, laisser entrer les gens dans cet univers-là, dans l'univers de nos cuisines africaines, de nos cultures africaines. Moi, je le fais au travers des épices. Ça veut dire que quand on vient chez Misao, souvent les gens y rentrent et disent « Ah, ici, il n'y a que des épices d'Afrique ». Et direct, on a ouvert le débat, en fait. Mmh. On a ouvert le débat de leur dire « Mais les épices viennent d'où ?»« Ah oui, ben, ça vient d'Asie, d'habitude ». Et voilà, et on est parti. Et c'est ce que nous, on aimerait bien faire quand on parle du poulet à la mwambe, qui est un plat typique congolais ou belgo-belge. Enfin, ça dépend un peu où vous vous placez. Tout Belge connaît le poulet à la mwambe, que ses parents aient été au Congo ou pas. Ils connaissent, c'est quelque chose qui est resté dans la culture belge, comme ici, vous aurez à voir le mafé. Mais c'est de faire entrer les gens dans cet univers-là. Donc le regard qu'on porte, il est toujours marginal. Moi, je le vois au travers des épices. Ce qu'on veut, c'est garder notre identité, mais qu'on devienne mainstream. Ça prendra le temps que ça prendra chez nous, parce qu'on a un historique différent des communautés afro-descendantes en France. Mais voilà, le constat aujourd'hui, il est là. C'est vrai que c'est naissant chez nous.
Quand vous dites marginal, moi, marginalisation, j'entends exclusion.
Non,
c'est pas comme ça que vous l'entendez.
Voilà, non, non, pas du tout. C'est comme quand vous dites discret. Discrétion. Souvent, le mot discrétion, c'est pas forcément caché, mais c'est que c'est une toute petite partie qui est là. Et en fait, chez nous, c'est exactement ça. On n'a pas tant d'acteurs que ça dans l'afro. Et le travail que Roger a fait avec son équipe, c'est vraiment de les mettre en avant. De dire, bah voilà, aujourd'hui, tiens, vous saviez qu'un tel, un tel, un tel sont là. Et ce que moi, j'ai adoré dans ce documentaire, c'est de voir aussi la jeunesse des acteurs. Je crois que je vais être la plus âgée, donc, à part les chercheurs d'université. Et c'est une fierté. C'est une fierté quand on est venu à la projection, que ce soit des gens de nos communautés ou des amis belges, français, peu importe qu'on avait invité, qui disent waouh, mais c'est hyper dynamique en fait dans les communautés afro en Belgique. Donc marginalisation, c'est pas dans le terme péjoratif, c'est vraiment que c'est petit.
Oui, c'est ça.
Niche.
C'est...
La niche dans le sens commercial du terme, à
exactement.
Savoir ce petit produit d'exception et qui reste encore peu connu.
Exactement.
C'est ce qui fait sa valeur, mais auquel on aspire un peu plus de visibilité. Alors c'est amusant parce que d'autres diasporas ont réussi à jouer des coudes, en tout cas à être nettement plus mangés, savourés, dégustés au restaurant, on se pose même plus la question. Et dans le documentaire, il y a d'ailleurs Cédric Mbillé, qui est entrepreneur culturel, qui s'exprime sur ce sujet.
Ouais. Je vais parler d'une autre culture. Je vais parler de nos amis asiatiques. Ils ont réussi le tour de force de trouver ça normal que peu importe tes origines, tu passes la porte du restaurant, tu t'assieds et tu commandes ton riz sauté et tout le monde trouve ça normal. Moi maintenant, j'aimerais bien que ça arrive aussi avec la nourriture africaine et que peu importe le restaurant, tu puisses passer, je ne sais pas moi, un restaurant malien, tu ouvres la porte, tu viens, tu t'assieds, tu commandes ton plat et tu le manges. Et peu importe qui tu es, en fait. Un Asiatique, justement, venez les Asiatiques manger chez nous. Moi, par exemple, je suis admiratif de voir en France ou en Angleterre, de voir l'évolution de cette cuisine. Là-bas, c'est devenu beaucoup plus normalisé, beaucoup plus démocratique d'aller manger dans un restaurant africain. On n'y est pas encore en Belgique, mais tout doucement, je commence à voir que, avec justement cette jeunesse qui est porteuse, on commence à y arriver.
Cédric Mbillé dans Roots and Plates, vous nous rejoignez, vous écoutez Le Goût du Monde, Roots and Plates, donc ce documentaire signé notamment par Roger Doufimé qui est avec nous aujourd'hui. Quand je l'entends, j'entends aussi justement cette timidité quand même, c'est une diaspora, une immigration qui était finalement assez récente.
Oui.
Est-ce qu'elle a eu le temps de plonger ses racines ?
Non, je pense pas. Justement, quand les gens me demandent « Ah mais pourquoi est-ce que vous avez commencé ça maintenant ? Pourquoi vous ne l'avez pas fait depuis 30 ans ?» Donc maintenant, moi j'ai 50 ans. Moi, il y a 30 ans, mes parents, il était hors de question en Belgique que tu te lances dans l'entrepreneuriat, que tu deviennes chef d'entreprise, parce qu'on a eu deux vagues d'immigration. Roger peut aussi témoigner dans sa communauté aussi, c'est qu'on a des parents qui sont arrivés, peu importe soit congolais, camerounais ou d'autres, ils sont arrivés réfugiés politiques ou réfugiés économiques, et c'était « on doit s'en sortir ». Tant qu'on est venu ici étudier, vous allez étudier, vous êtes né ici, il faut faire des grandes études. Or, aujourd'hui, le parcours professionnel change un peu partout en Europe. Le fait de se dire, ben, j'ai un contrat de durée indéterminée, j'ai un travail fixe, je vais faire ma carrière toute ma vie à tel endroit, ce n'est plus vrai du tout. Et donc, maintenant, on a cette deuxième génération qui se dit, mais en fait, moi, j'y crois plus, tout comme des jeunes européens qui vont dire, ben, en fait, on n'y croit plus trop à ce modèle, on veut essayer autre chose, et qui osent, et dont les parents sont peut-être installés, et peut-être que maintenant, on n'a plus ce stress, est-ce que j'ai un permis de séjour ou pas, qu'avaient nos parents ou nos grands-parents.
Et qui est transmis, en plus, de génération en génération. Voilà. Fais attention, ne parle pas trop fort, assure-toi
voilà.
De garder ton travail.
Exactement. Et donc, moi, c'était là-dedans, c'était des conseils, fais bien ce qu'on dit de faire au travail, alors que vous, vous bouillonnez, vous voulez faire des tas de choses, et puis on vous rappelle un peu, attention, il y a un carcan, attention, hein, t'as la chance d'être belge, maintenant t'as sexualité. Fais ça bien, prends ta place dans cette société qui est là. Et je pense qu'on arrive à une génération où maintenant, bah, on se dit, ouais, mais de toute façon, je suis belge, ils vont m'envoyer où? Au Cameroun, au Congo, au Rwanda, au Burundi. Ils vont m'envoyer où? Je suis là, je suis belge. Je suis européen, au fait. Et on se dit, ah, mais oui, au fait, je suis européen. Eh ben, je peux le faire. Et je pense qu'on est à ça, où maintenant, on ose, où maintenant, on n'est plus dans le food à mi-temps, ou le soir, ou le week-end, ou sur le côté. On se lance.
On s'affirme.
Exact.
Et cependant, il est question aussi de ces cuisines qu'on va garder à la maison, dans les foyers, et quand elles sortent, eh bien, on va les lisser, on va les polisser, on va peut-être enlever quelques accents piquants, qui ne sont pas d'ailleurs la définition du tout des cuisines africaines, c'est la saveur. Tout ça, est-ce qu'on arrive à s'affranchir de ça, se présenter tel qu'on est ?
Honnêtement, moi je crois que c'est une des parties qui m'intéresse le plus, cette question en fait d'oser être soi. Moi je suis un passionné de cuisine, donc en fait j'adore le fait que en fonction des cultures, des régions, des endroits, des chefs, en fait on a envie de proposer un goût au monde en fait, en disant tiens voilà, voici ce que nous on a envie de proposer. J'ai jamais compris pourquoi on avait des fois des complexes en se disant tiens on va lisser, c'est trop piquant par rapport à quoi, trop gras par rapport à quoi, selon quelles normes. Et en fait moi avec ce documentaire je voulais qu'on regarde la cuisine africaine avec un regard afrodescendant, avec un regard noir, avec un regard comme celui qui apprécie et pas avec un regard en disant ah tiens mais c'est quoi ça, mais non je sais ce que je suis en train de filmer et je te demande de filmer ça parce que je le sais et que je l'apprécie et donc le goût que moi j'y mets c'est le goût qui est recherché, tu peux ne pas apprécier. Mais c'est comme ça. Et ça, ça vaut pour toutes les cultures. Et en fait, c'est extrêmement ethnocentré de se regarder en disant, mais ça, c'est trop ci ou trop cela. Comme si, en fait, il y avait un goût qui était un juste goût. Ouais. Ça n'existe pas.
Et c'est l'historienne Maureen Dourou dans votre film qui le dit. Soyons courageux.
Ouais.
Exactement.
Appartenir à la même communauté et ne pas apprécier les mêmes choses. Ça part de là, en fait.
Exactement.
Être courageux, assumer qui l'on est et puis être fier de qui l'on est, en fait.
Là, on parle de la cuisine, mais c'est quelque chose qui accompagne beaucoup l'expérience diasporique. C'est devoir se lisser, lisser les cheveux, lisser son accent. Et moi, je voulais aussi qu'en fait, on garde les accents, qu'on garde des types de j'ai envie de dire, de noirs différents. En fait, je voulais ça. Je voulais montrer l'afrodescendance dans sa complexité, pas sa complétude, parce que j'ai pas filmé tous les noirs du monde. J'en ai filmé quelques-uns, mais qui montrent qu'en fait, tu sors de ton idée reçue. Et ça, c'est important qu'on arrête de chercher à paraître, mais peut-être à être ce qu'on est.
Et d'ailleurs, je m'amuse juste parce que vous m'avez dit que vous avez découvert que beaucoup des gens que vous avez interviewés avaient un bon accent belge.
Oui, c'est marrant. Surtout Sandrine, d'ailleurs.
Oui, t'as vu. Hein. Et pendant quand je suis ici, je le perds.
Non, c'est incroyable.
Et moi, j'adore mon accent belge.
Oui, mais tout le monde.
Belge.
En fait, tout le monde, c'est ça qui est drôle.
Watching my seas, you know I'm a G. Shawty, I'm always keeping real. I know they for too much whining, they for too much whining. I see the bee, I see shayo de enta. Oh yeah, make you call a bee. Oh yeah, show yourself, do a basabi. Love is in the air, baby, breathe in. I available, baby, anytime you need me, I de available. Compatible, two of us, they compatible. Girl, I be bad boy, forget, say, I de mellow. Ha, baby, I de fold, baby, take it slow. Baby, go down low, nobody has to know. Yeah, I know I'm playing around, my man, I'm just gonna let you go. Baby, too money. You know, say you're matching my steez. You know I'm a G, shawty, I'm always keep it real. I know they got too much whining, they got too much whining. Hazi de bi, hazi shayo de enta. Oh ya make you call a bi. Oh ya show yourself to a basabi. Love is in the air. Baby breathe in.
Baby, is it a crime de Rema, le velours de la voix de Shadé en introduction. Sérieusement. Merci à l'équipe de la playlist pour ce choix aux petits oignons. Vous êtes bien sûr RFI, vous écoutez Le Goût du Monde. Le Goût des Afriques en Belgique, une histoire de racines et de goût dans le documentaire inédit de Roger Douchimé, Will Anderson et Mila Jones, Roots and Plate, une histoire de la cuisine noire en Belgique. Roger est avec nous, Sandrine Vasselin-Kabanga, chasseuse d'épices et fondatrice de Missao aussi. Alors ce qui est formidable, c'est qu'à chaque fois, c'est ce qui se produit. Mmh. On fait partir la musique, on est bien et la discussion se poursuit. Alors de quoi parliez-vous justement sur ce que vous a fait en fait,
ouais,
Sandrine, de voir ce film Roots and Plate dans un, ouais, cinéma à Bruxelles?
Déjà au cinéma Palace. Mmh. Bravo Roger. Ah, c'est, ouais, un accomplissement. Vous ne vous rendez pas compte en fait quand vous êtes dans le microcosme belge de ce que ça veut dire. de ce que Roger et son équipe ont fait là. Et le palace lui a fait confiance là-dessus. Mmh. Et nous tous, en fait. Mmh. Parce que je pense que je parle plus de mon travail sur les épices africaines en France qu'en Belgique, sur les ondes belges. Quand il s'agit d'avoir cette voix, d'avoir cette image, on le fait plus ici, parce que je pense qu'il y a vraiment plus, cette ouverture est déjà là, alors qu'en Belgique on est encore un peu timide.
On a l'habitude en France, parce qu'on est acoquiné aussi aux cuisines du monde, ouais, qui sont moins présentes peut-être en Belgique qu'elles ne le sont ici.
Il y a 20 ans, sincèrement à Bruxelles quand j'étais étudiante, il y avait 2 restaurants indiens auxquels on allait et qu'on connaissait. Et encore, quand je suis arrivée à Londres et que j'ai mangé plusieurs sortes de nourriture indienne, je me suis dit, ouf, on nous a menti.
Voilà. Non, clairement, il n'y a pas la même exposition, comme tu le dis dans le ouais. documentaire. Et il faut quand même toujours rappeler, la Belgique, c'est un petit pays avec une petite population qui est divisée en 2 communautés. Donc, en fait, on vit dans 2 mondes différents. Mm-hmm. Donc, c'est notre réalité.
Alors, il y a un concept, moi, que j'ai adoré. C'est une anthropologue qui le dit dans votre film. Elle s'appelle Sarah O'Neill. Oui. Et elle parle de l'invention de la tradition.
Lorsque nous parlons de transmission de la tradition, l'un des aspects compliqués sur le plan de l'anthropologie, c'est le concept de l'invention de la tradition. Il n'y a pas qu'une seule tradition culinaire, mais l'idée que les traditions changent un peu à chaque génération. Elles ne sont pas stables et immuables, elles bougent, elles évoluent. Certains aspects de la tradition sont préservés et transmis. D'autres aspects sont oubliés et transformés de sorte que, 3 générations plus tard, vous ne réalisez même pas que cette tradition a été inventée il y a 3 ou 4 générations. Ainsi, beaucoup d'entre nous avons des traditions familiales liées à la nourriture que nous considérons comme des traditions familiales, alors que si l'on remonte 5 générations en arrière, les produits n'existaient parfois même pas dans le contexte africain ou le contexte européen.
Sarah O'Neill.
Mais elle est venue conforter ce que nous, on savait déjà un peu. Avant qu'on entre en studio ici, on parlait du manioc qui a été introduit en Afrique, qui vient du Brésil. Nous, on le sait, mais souvent, vous allez parler à des gens en Afrique qui disent « Non, non, ça, c'est notre tradition. »
Mais j'ai envie qu'on écoute à nouveau Cédric Billet.
Moi, je vais te faire une confidence. Dans ma famille, on a un plat emblématique qu'on a inventé et qui existe nulle part ailleurs. Donc, nous, on a fait un gratin de banane plantain, un peu comme le chicon gratin, sauf qu'au lieu que ce soit du chicon, c'est de la banane plantain. Et donc, je peux te dire que chez nous, ça, c'est le plat. Il n'y a même pas de nom, ça s'appelle la recette. Et donc, chaque membre de notre famille a sa version de la recette.
Roger Douchiné.
Ce que j'adore dans ce passage, c'est que le chicon au gratin, ça fait partie des plats un peu totémiques.
Donc, le chicon, on est d'accord, c'est des endives
oui,
au
voilà,
gratin.
Voilà, ah, voilà, c'est exactement. C'est
dans la belgitude.
Dans la belgitude, ouais. On appelle ça chicon. C'est vraiment typique des cuisines belges, quoi. C'est le truc qu'on mange généralement avec donc une béchamel, du jambon, etc. Et donc le fait
du nord au sud du pays, dans toutes les communautés.
Exactement. C'est quelque chose de cantine à l'école. C'est quelque chose qu'on va manger chez la grand-mère qu'on n'aime pas trop. Et donc justement, on laisse.
Il y a toute une histoire. En fait,
voilà, exactement. Donc c'est quelque chose que si tu es belge, tu peux comprendre la référence. Et le fait de l'africaniser ou de mettre de l'Afrique dedans. En tout cas, ça m'interroge. Et donc, c'est peut-être une question à poser à des sociologues ou des anthropologues, se dire, tiens, mais qu'est-ce que ça raconte, en fait, aussi, de cette cuisine qui se créolise, peut-être, d'une certaine manière. Voilà. Donc, il y a des choses à dire.
Mais n'est-ce pas justement une invention aussi? On a une construction d'une nouvelle langue commune qui est en train de se faire. Une langue, une cuisine, un plat, dans lesquels tous vont se reconnaître.
Ça, pour moi, c'est la question justement de l'afrofood. C'est que moi, quand je réfléchissais à c'est quoi l'afrofood, c'est un pot, un mot valise. En fait, il n'y a pas de définition en tant que telle. Mais c'est se dire, tiens, qu'est-ce qui fait commun parmi toutes les diasporas noires dans le monde à travers la cuisine, et on peut trouver des goûts communs. Moi, perso, j'en décèle certains. Donc, on peut trouver des formes d'acidité, des formes de gras, des formes de piquant, des formes
de texture,
d'amertume, de cuisson. Il y a des manières de faire en termes de pratique. Et moi, j'aime souvent questionner, mais je dis, mais est-ce que c'est le hasard qui le fait ou c'est la culture? Et en fait, souvent, c'est la culture parce qu'en fait, c'est des codes culturels qui font de la gastronomie. Et en fait, on a ça dans la cuisine. Mais là, ce film veut inviter les Belges, nos compatriotes de l'autre rive, en leur disant, mais... Venez faire communauté avec nous, en fait.
Quelle est la place pour la transmission? On vous sent très inquiète que cette transmission, Sandrine, ne puisse pas se faire.
Via le documentaire comme Roger, déjà d'avoir quelque chose, pour moi c'est historique, on a là, c'est acté, et c'est une référence. C'est-à-dire que déjà on a pu poser les jalons de dire, on a ça, on a ce savoir, on a ces diversités culturelles en Belgique. J'aimerais l'aborder du point de vue de notre belgitude. Dans nos communautés, en Belgique, dans les communautés afrodescendantes, on doit autant s'affirmer que comme on doit aussi affirmer devant le monde notre identité belge, d'accord ? Donc déjà, ça, c'est quelque chose que nous, on a appris, les Belges, en étant déjà depuis tout petit. D'autant plus en étant des communautés afrodescendantes, où c'est pas une urgence, mais c'est un besoin de dire on doit absolument préserver cela. On a une double casquette où, effectivement, cette transmission, pour nous, elle est hyper importante. Après, d'arriver à créer un langage commun ou d'avoir ce métissage entre les cuisines africaines et la cuisine belge, pour moi, ça viendra après. Mais je pense qu'avec les cuisines africaines, c'est d'abord déjà de les asseoir. Déjà qu'elles soient là, qu'elles soient reconnues et qu'on les assume, tout comme on assume notre belgitude, bah, qu'on assume notre afro-descendance belge dans nos cultures culinaires africaines.
Et je voulais compléter sur le fait que moi, je suis plutôt quelqu'un, on va dire, assez conservateur dès qu'il s'agit de cuisine. C'est que, en fait, j'aime cette phrase, on dit avant de revisiter, il faut visiter. J'aimerais qu'on transmette réellement le goût imaginairement originel de quelque chose qu'on pense être comme la tradition. Mais si on transmet juste ce qui est le fruit de l'adaptation, de j'ai envie de dire, du bricolage, de la contrainte, on n'a pas le produit, donc on remplace. Mais c'est une perte de quelque chose. Et surtout pour notre génération, donc moi je m'inclus là-dedans, d'Africains nés en Afrique ou nés en Europe, mais qui a cette...
Et grandi dans cette culture,
c'est imprégné culture, l'Afrique. On l'appelle souvent les enfants de la troisième culture. C'est entre deux. On peut l'avoir peut-être d'un point de vue culturel, d'un point de vue de la langue, d'un point de vue de l'esprit. Mais en fait... Moi, j'ai souvent eu ce sentiment, c'est peut-être cette gêne, de me sentir perdu, en fait, de me dire, mais en fait, est-ce que je fais bien la recette? À un moment, tu dois faire une recette que tu penses connaître et tu dis, mais est-ce que c'est juste? Et donc, je vous donne une anecdote. Je fais un plat, le sombé, Rwanda, où en fait...
Feuilles de manioc pilées, cuites, voilà.
Exactement, donc un ragoût de feuilles de manioc.
Comme un sac à sac à?
C'est exactement la même chose, juste la langue, le mot qui est différent. Et je suis là, chez ma tante, et je cuisine et je m'improvise. Et donc je mets des carottes dedans. Et je vois mon...
Sacrilège.
Voilà. Et donc je vois mon petit neveu, qui est aussi mon filleul, et qui arrive, il a 7 ans, 8 ans, il me regarde comme ça, il doute, il me juge, clairement. Donc tu mets des carottes dans le sombé. et je regarde, je fais bah ouais. Et il me fait bah oh, jamais vu ça. Et je suis en train de me rendre compte que moi j'ai grandi pas forcément tout le temps dans la culture africaine. Lui il est habitué, il a jamais vu sa maman faire ça. Donc il était choqué, ça ne faisait pas sens pour lui.
Il a mangé. Alors la question c'est est-ce qu'il a aimé?
Ah oui, non, c'est bon. Mais en fait c'est pas parce que c'est bon que c'est la culture.
Ouais. Nous quand on est arrivé en Belgique dans les années 80, il y avait très 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 peu de magasins afro, on pouvait trouver tous nos produits. Et donc, nous on a grandi en Belgique et on détestait ça au début. Ils faisaient le foufou avec la semoule de blé, parce qu'on ne trouvait que des magasins marocains. Et c'est ce qui se rapprochait le plus, il n'y avait pas de farine de manioc, farine de ceci. Et donc, venant d'Afrique, venant du Congo, on goûte ce truc, on dit ah non, mais non, on ne peut pas ça. On ne peut pas. Et pendant des années, c'est ce qu'on a eu, jusqu'à ce que... tous ces magasins se multiplient, que ces échanges avec d'autres pays producteurs se fassent, que les communautés grandissent, mais pendant des années, et c'est resté dans beaucoup de familles, on va dire, tu veux un foufou de quoi? Avec la semoule de maïs, avec la semoule de blé, ou avec la semoule de manioc, ou de... Bref, il y a des choses comme ça, mais on sait bien que... Et ça, c'est pas un vrai foufou, ça. Même mon fils, qui a trois quarts de sang européen et un peu de sang de congolais, si j'ose faire un foufou qui n'est pas comme chez mamie, il va me le dire et il va me le coter. Hein.
Ce qui est important, c'est que si on arrive à regarder les cuisines noires comme de la gastronomie, c'est pouvoir en fait regarder en disant voici ce que dit à peu près la tradition, voici ce qui fait consensus, voici ce que dans telle ou telle région on fait, voici moi ce que je vous propose. Mais il faut pouvoir, pour avoir cette lecture-là, mais il faut avoir les autres références. Ouais. Et le problème, sinon, on est dans la confusion, en fait, on est dans l'à peu près. Et ça, je trouve que c'est juste de l'ignorance, alors qu'en fait, la culture est riche et qu'il y a des choses qui existent. Il faut juste sans doute le préserver et puis on fait ce qu'on veut.
Ce qu'on essaye de dire tous les deux, c'est qu'il ne faut pas sauter cette étape.
Ouais.
Il ne faut pas passer de on ne connaît pas du tout et on va complètement créoliser, métisser.
C'est exactement ça.
Il faut le goût brut. On ne peut pas me faire un dolé avec des épinards.
D'autant que le dolé, en fait, il se fait depuis 60 ans ici.
Voilà.
Donc il a eu le temps de plonger ses racines bien profondes pour pouvoir remonter ensuite.
C'est ça.
Qu'il y ait une réponse dans les restaurants où on puisse manger, déguster, savourer, découvrir cette cuisine.
Clairement. Donc il faut plus de restaurants africains, il faut plus de chefs, il y a aussi des enjeux de formation. Donc en fait, on doit quitter une forme d'amateurisme, si je dis les mots, de clandestinité où on fait les choses comme ça. Mais en fait, non, si on veut faire de la cuisine et c'est cool de faire de la cuisine, faisons de la cuisine.
Et c'est là où,
exactement. Ouais. Et c'est là où Maurice Sacco, Georges Naviou et d'autres chefs et des chefs qu'on montre dans le documentaire, chef Neri, chef Songou, permettre de montrer qu'en fait, c'est cool, c'est beau, c'est une manière d'être des ambassadeurs de nos gastronomies et qu'en fait nos gastronomies ont de la place et peut-être aussi demain des marchés. Voilà, c'est sans doute maintenant qu'il faut le faire parce qu'on est dans un momentum qui le permet. C'était pas possible sans doute il y a 10 ou 15 ans. Peut-être dans 10 ou 15 ans, ce sera trop tard.
Exactement. En Belgique, c'est ce que je dis souvent à tous ces jeunes qui commencent. Il y en a plein qui viennent me voir avec des projets hyper ambitieux, hyper gastronomiques. Et moi, je leur dis, ce qui nous manque d'abord, c'est d'avoir 2-3 restaurants sur Bruxelles ou en Belgique où je peux venir, je vais manger mon foufou, mon pondou, mon poulet à la moambe, les classiques. Juste ça, et vous allez voir que déjà, ça va ouvrir énormément les gens qui viennent dans ma boutique. Une fois qu'ils ont fait le tour d'Afrique de ma boutique avec les épices, première question, c'est oh, où est-ce que je peux aller? Il n'y a pas un restaurant africain ici tout près. Et je peine à leur donner des adresses, parce qu'on n'en a pas tant que ça. Ouais. Et ils ne veulent pas de chichi. Ils veulent la base. Ils veulent un foufou, un riz pondou, ils veulent un macayabo, ils veulent vraiment des choses, des goûts authentiques.
Ouais, ils veulent découvrir.
Et il y a quelque chose qui me motive, c'est qu'un jour, je rencontre un chef 2 étoiles belge qui a un restaurant en plein centre de Clémenceau, donc un quartier genre équivalent de Châteaurouge.
Ah ouais, je vois qui.
Et il me fait, mais moi, on a découvert toutes les cuisines. Maintenant, c'est l'Afrique, mais on n'a pas de quelqu'un qui peut nous expliquer quoi goûter, etc. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il y a son restaurant et juste à côté, il y a du taro, des maniocs, etc.
Tout
mais,
est là.
Mais c'est quelqu'un qui explique, qui dit, voilà, je te fais goûter, je te donne les références, je te fais comprendre que dans Zissoumbé, on ne met pas des carottes pour avoir les codes, en fait. Et là, je me suis dit, mais si ce chef-là, il est dans cette envie de découvrir, c'est que sans doute d'autres personnes le veulent. Et ce qu'il voulait, c'était pas que justement je vienne avec quelque chose d'édulcoré. Il m'a dit, invite-moi chez ta tante et on goûte ensemble le vrai goût, parce qu'il veut goûter le goût, en fait. Voilà. Et ça, et nous, on a honte de ce goût-là. Alors qu'en fait, ce goût-là fait partie des palettes des choses qu'on doit découvrir.
Ce que nous, on doit être aujourd'hui, je pense, cette génération, c'est vraiment le trait d'union entre nos cultures à nous, nos transmissions, avec ces chefs-là. Et moi, je peux t'assurer que si nos générations en Belgique ne vont pas assez vite, moi, tu sais très bien, il y a certains chefs que j'avais amenés au Congo, on a fait ce travail d'éducation sur 6 mois. Et ils voulaient tout goûter brut. Mais après, le rendu sur place qu'on a cuisiné avec eux à Lubumbashi, ben moi, j'étais bluffée. Ils ont utilisé que des produits locaux sur 3 gros événements gastronomiques. Ouais. Et même les gens qui étaient venus, les expats, etc. Et oui, on a mangé tel chef, 2 étoiles et tout. Et à la fin du repas, on leur a dit, oui, mais là, c'était tous des produits qu'on a achetés ici. Oh, ils se sentaient un peu comme si on allait tricher. Mais en fait, ils disaient, non, mais c'était excellent. Donc, on peut faire quelque chose à ce niveau-là. Et le chef a travaillé vraiment, je t'assure, sur le manioc, sur le maïs, sur le haricot. Alors, chez nous, c'est hyper important, le haricot, les haricots, parce qu'on dit toujours le haricot, mais c'est les haricots en Afrique de l'Est, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, partout en Afrique. Tous ces chefs étoilés que j'entends en France ou en Belgique, dans notre microcosme belge, ils vont bouger, si nous on ne se positionne pas, ils bougent beaucoup plus vite que nous. Il y a un des chefs, je peux le citer, Christophe Hardiquet, avec qui je travaille toujours de façon très très proche, il me répète depuis des années, Sandrine, après pour la créativité, c'est l'Afrique. Hein. On a fait le tour, nous. Maintenant, il faut qu'on cherche ailleurs, maintenant. Mais ils ont besoin de ces acteurs qui vont faire le trait d'union.
En tout cas, je crois qu'on a un bon ambassadeur.
Bons ambassadeurs.
Merci beaucoup, Roger Doucimé.
Merci beaucoup
Sandrine
pour l'invitation.
Sandrine Vasselin-Kabunga, merci à tous les deux. Longue vie à Roots and Plates, votre documentaire. Hâte de le voir diffusé sur les écrans ici et ailleurs. Sur la page de l'émission, nous avons glissé bien sûr les liens vers le film, vos profils sur les réseaux sociaux pour poursuivre cette rencontre. Un clin d'œil amical évidemment à Georgiana View et Maurice Sacco, à Marie Condé, à Jessica Béharis, à tous ceux qui portent au grand jour la perplexité et la nature des cuisines africaines ici et ailleurs. Merci à Alice Ménard pour la réalisation et la mise en onde de ce Goût du Monde. À vous tous qui nous écoutez chaque semaine en direct et en podcast sur Pure Radio ou votre plateforme préférée. On vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous.